Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Je vous invite, sans plus tarder, à ouvrir vos Bibles dans le livre de Daniel. Et ce matin, nous allons faire simple, nous allons lire le début. Et auparavant, j'aimerais que nous puissions prier, s'il vous plaît. Seigneur, nous te bénissons parce que sans toi, nous savons que nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Te bénissons parce que tu nous as laissé ta parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur, une lumière sur notre sentier qui nous dirige par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir sonder les Écritures, de pouvoir nous mettre à tes pieds pour apprendre de toi ce matin, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que ta parole soit glorifiée ce matin parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons tout simplement lire Daniel, donc, du chapitre 1, bien sûr, du verset 1 au verset 21, si vous le voulez bien. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, il aurait pu changer de nom celui-là, franchement, emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. Au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. quand j'ai étudié ce passage, en quelque sorte, je me suis fait plaisir un petit peu. Parce que j'aime beaucoup le livre de Daniel, et j'aime beaucoup Daniel lui-même, ce héros de la foi, et cet exemple pour chacun d'entre nous. Et j'espère que vous allez apprécier également le portrait de ce personnage, parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors notre passage donc débute le livre de Daniel. Daniel, en fait, son nom veut dire « Dieu est mon juge ». Pour la petite anecdote, il en est l'auteur, bien entendu, puisque le livre, selon la coutume hébraïque, porte le nom de son auteur. Et le livre dans son ensemble, bon, on a lu que les 20 premiers versets, mais le livre dans son ensemble couvre les 70 ans de la captivité babylonienne, environ de 605 à 536 avant Jésus-Christ. Et ce livre est un livre un peu à part. Il peut être considéré comme un livre prophétique, bien entendu, mais aussi apocalyptique par rapport à l'Apocalypse que nous avons dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup d'analogies, et donc c'est en quelque sorte l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Daniel, pour revenir à notre héros, est né dans une famille de notables de Juda, et quand il fut amené en captivité à Babylone, il était adolescent. On pense 15 ou 16 ans environ, on ne sait pas exactement, mais bon, c'était un adolescent relativement jeune. Et ce fut là qu'il passa le reste de sa vie. Il est parti de Jérusalem, qu'il n'a plus jamais revu, et il est resté au moins 85 ans là-bas. Pour vous le situer à peu près, les prophètes contemporains de Daniel sont Ézéchiel, Habacuc, Jérémie et Sophonie. Voilà, ça vous donne une base de départ pour bien situer l'histoire de Daniel. Donc notre propos ce matin, ce n'est pas de faire de l'histoire, hein, vous avez bien compris, mais c'est d'étudier les circonstances dans lesquelles Daniel triompha de l'épreuve et resta fidèle à son Dieu malgré son exil, et d'en tirer, bien entendu, pour nous des applications à notre vie chrétienne. Donc, comme nous l'avons dit, nous sommes au début de ce passage, en l'an environ 606 avant Jésus-Christ, durant le règne de Joachim, comme il nous est dit dans le texte. Son premier nom était Éliakim, ce roi, et son nom a été changé par un pharaon, Nécho, qui l'avait mis sous son joug, en fait. Joachim était un des fils de Josias, et il régna environ 11 ans sur Juda, de 609 à 598. Et le début de notre passage, eh bien, pendant le début de ce passage, la promesse de Dieu concernant Israël est en train de s'accomplir. Et j'aimerais que nous lisions dans Deutéronome 28 quel est le tenant de cette promesse. Deutéronome 28 et du verset 63 à 64. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont pas connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Alors on connaît les promesses de Dieu, et en tant que chrétien, on s'attache beaucoup plus aux promesses positives, évidemment, qu'aux promesses négatives. Mais là, évidemment, par la force des choses, c'est une promesse que Dieu tient, comme toutes ses promesses, mais une promesse très négative. Le péché d'Israël n'a pas entraîné du tout une repentance nationale, malgré les mises en garde de tous les prophètes, hein, comme Jérémie, qui n'a pas arrêté d'exhorter les Israélites à revenir à leur Dieu, Habacuc et Sophonie également. Et donc, Joachim, dont il nous est dit dans la parole de Dieu qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, n'a rien arrangé. Il fut assujetti, ce roi Joachim à Pharaon Necho, jusqu'à ce que Nabuchodonosor arrive, batte les Égyptiens à Carchemish et mette Israël sous son joug, Juda exactement. Donc il passa sous la domination des Babyloniens, et c'est en ce temps-là que le roi Nabuchodonosor amena des otages à Babylone, dont faisaient partie Daniel et nos trois amis. C'est donc le début de notre passage. D'ailleurs, par la suite, Joachim les rejoint, puisqu'il se révolta contre Babylone et fut amené lui-même en déportation, quelques années plus tard. Donc le roi, ce roi ne voulut pas détourner le peuple de l'idolâtrie et donc a précipité la déportation du peuple, qui se fera en trois vagues d'ailleurs. Et là, nous assistons à la première vague de déportation. Donc Daniel et ses trois amis font partie de la première déportation. Ils sont donc victimes de bouleversements tout à fait internationaux qui ont été prévus par Dieu pour châtier son peuple. Alors, les voilà exilés dans un pays inconnu, livrés aux caprices d'un dictateur qui est très connu pour sa cruauté et sa mégalomanie, à plus de 1000 km de leur patrie, et définitivement écartés de la cour de Juda. Voilà donc la peu enviable situation de nos quatre adolescents, retracée dans les premiers versets de notre passage. Mais non content de ça, c'est déjà une situation très négative, mais ils vont devoir également subir un véritable lavage de cerveau. Vous connaissez ce que c'est ? Lavage de cerveau, c'est jamais très agréable, mais le roi Nabuchodonosor veut vraiment les nettoyer en quelque sorte pour qu'ils puissent servir dans sa cour. Ils vont devoir acquérir de nouvelles connaissances, et certainement contraires à leur coutume. Ils seront astreints certainement à une religion totalement différente de la leur. Ils vont même jusqu'à changer leur nom afin d'effacer totalement leur origine et être complètement assimilés à la culture babylonienne. Nous savons que Babylone agissait la plupart du temps comme ça, avec les pays qu'ils envahissaient. Ils ramenaient des gens du pays dans leur patrie et ils les assimilaient petit à petit à leur peuple, en leur faisant changer leurs coutumes complètement. Et cela ne vous rappelle-t-il personne ? Dans la Bible, il y a un autre héros de la foi qui a vécu plus ou moins la même chose, bon, pas dans les mêmes circonstances, bien entendu, mais il y a beaucoup d'analogies par rapport à Daniel, c'est Joseph. Joseph était, comme Daniel, heureux dans sa famille. Il fut pourtant trahi et vendu comme esclave aux Madianites. Il fut amené en Égypte, revendu encore à Potiphar. Et il dut lui aussi s'adapter à une nouvelle façon de vivre, à de nouvelles coutumes et à une culture totalement différente de la sienne. Et la suite de notre récit va nous montrer que ce ne sont pas là les seules analogies. Nous allons voir tout à l'heure qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais nous allons revenir donc à Daniel et à ses trois amis. Du point de vue humain, donc, Daniel avait tout perdu. Mais sa foi, que nous allons voir en action, en son Dieu était inébranlable. Il aurait pu se croire abandonné de Dieu, renier sa foi, rejeter sa religion et embrasser celle du nouveau pays. Il aurait certainement été mieux accueilli, mieux intégré. En tout cas, c'est ce que nous pouvons penser comme ça de prime abord. Et à vous, ne vous est-il jamais arrivé de traverser des moments tellement difficiles, pas des petites tribulations, mais des moments extrêmement difficiles, hein, vous êtes complètement découragé et apparemment, pour vous, abandonné de Dieu? N'avez-vous jamais été tenté d'abandonner votre foi et de repartir dans le monde parce que vous n'avez pas de porte de sortie? Peut-être même êtes-vous en ce moment dans cette situation et cherchez-vous un signe de Dieu pour vous réconforter? Il y a des situations extrêmement difficiles pour les enfants de Dieu. Évidemment, en France, nous sommes privilégiés, mais quand nous regardons, quand le vendredi soir, nous prions pour les pays où les chrétiens sont persécutés, nous nous rendons compte immédiatement que d'affirmer sa foi chrétienne devient quelque chose de très dangereux, mortel certaines fois. Nous voyons tous les vendredis des chrétiens dans d'autres pays qui sont persécutés, qui perdent tout, qui perdent même la vie certaines fois, qui sont déplacés, et pourtant ils gardent la foi, comme Daniel d'ailleurs. Daniel était d'une autre trempe également. Il prit immédiatement position. Il affirma sa foi malgré l'épreuve qu'il était en train de vivre et mit son Dieu à l'épreuve. J'aimerais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens, le verset 10 à 13, s'il vous plaît. Dieu fait ce qu'il a à faire dans nos vies. Il ne s'embarrasse pas de notre faiblesse, mais il nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Alors, quand nous lisons ce passage, quand nous voyons les réactions de Daniel face à l'adversité, est-ce que nous sommes prêts à utiliser les difficultés qui nous entourent, les choses négatives, les épreuves, comme tremplin de notre foi, afin de résister dans les mauvais jours et d'obtenir la victoire en Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes capables de faire cela? Est-ce que nous avons peut-être vécu ce genre de situation? Est-ce que nous avons eu la victoire? Ou est-ce que nous sommes tombés? Daniel connaissait les Écritures et on s'en rend compte quand on lit tout son livre, il était fondé sur les Écritures. Et il savait donc que 1000 ans avant la déportation qu'il était en train de vivre, en tant que victime, Moïse en avait parlé déjà de cette déportation. Et même Salomon l'avait confirmé. Donc il voyait donc la captivité, d'une manière objective, comme un châtiment divin, prévu de longue date et rendu nécessaire par les déviations d'Israël. Donc il n'était pas étonné, entre guillemets, que Dieu châtie son peuple. C'était prévu. N'oublions pas qu'il vivait à la cour de Juda et certainement il voyait comment le peuple se comportait autour de lui et il savait que tôt ou tard, Dieu châtierait son peuple. Alors peut-être il ne connaissait pas le temps et la date où cela allait arriver, mais quand cela est arrivé, il n'était pas surpris. Il savait aussi que Dieu était au contrôle de cette situation. Et il mesurait l'épreuve et en contrôlait le cours. Et quand nous sommes, nous, dans la fournaise de l'épreuve, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sommes-nous persuadés que Dieu contrôle les circonstances et ne nous abandonne pas? C'est la foi qui nous dirige à ce moment-là. Savons-nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme Michel nous l'a lu, de tous ceux qui sont appelés selon son dessein? C'est vrai que voilà, c'est un verset, moi je trouve ce verset excellent. Quand tout va bien. Mais quand tout va mal, on a du mal à l'appliquer à nos vies. Et on a souvent des doutes et on se dit, mais pourquoi Dieu m'a mis dans une situation pareille? Pourquoi ma route n'est-elle pas plus facile? Mon ami chrétien qui est à côté de moi, tout lui réussit, tout va bien pour lui. Et moi, j'arrête pas d'avoir des épreuves, j'arrête pas d'avoir des problèmes. Eh bien, sachez que si vous, vous avez des problèmes, votre ami chrétien qui est à côté en aura peut-être plus tard, quand il faut. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit également, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La route est longue. La discipline de Dieu est certaines fois difficile à supporter, mais il sait ce qu'il fait. Daniel, donc, et ses trois amis étaient placés devant une triple épreuve qui nous est relatée dans ce passage. Il devait acquérir de nouvelles connaissances païennes. Il devait être identifié à des noms de dieux païens également. Et il avait une prescription sur leur régime alimentaire. Je ne sais pas si à la cour de ce roi-là, on regardait si les gens avaient un peu trop d'embonpoint ou non. Mais en tout cas, il y avait un régime spécial pour ces jeunes qui venaient de notre pays. On va voir pourquoi. En effet, pour ces quatre adolescents, pour que ces quatre adolescents puissent servir efficacement le roi de Babylone, il fallait qu'ils renoncent à leurs origines et même qu'ils les oublient au mieux. C'était le but du lavage de cerveau dont on a parlé tout à l'heure. Daniel voulait rester fidèle à son Dieu, c'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Il accepta pourtant de se soumettre à deux de ses exigences. Mais il refusa la troisième. Pourquoi ? Il avait compris ce qui pouvait le souiller et ce qui était secondaire. Il accepta donc de bonne grâce, plus ou moins je pense, de changer de nom, sans jamais oublier certainement son véritable nom. Il prit un surnom babylonien dédié à une divinité païenne, certainement pour lui assez difficile à porter, Belshazzar, qui signifie « prince de Bel » ou « faveur du dieu Bel », ce qui n'est pas mieux. Mais ça ne l'a gêné qu'à moitié. Pour lui, ce n'était qu'un surnom. Et cela ne revêtait pas une grande importance pour lui, je pense. Cela ne changeait rien, surtout à son cœur. Il accepta aussi d'apprendre tout ce qui concernait la culture babylonienne, la langue, la littérature, la religion, etc., etc. Et je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur, mais quelque part ici soumis, car cela ne touchait pas non plus à son intégrité spirituelle. Et nous, sommes-nous sages pour pouvoir déterminer ce qui dans le monde peut nous souiller ou non ? Quelle est la frontière entre ce qui nous souille et ce qui ne nous souille pas ? Cette frontière est toujours plus ou moins difficile à déterminer, certainement, surtout quand on côtoie les limites. Plus on s'approche du péché, et plus ça devient dangereux. Et il arrive un moment où on n'est plus capable de discerner les limites. Et le péché peut devenir quelque chose qui nous touche directement, sans qu'on s'en rende réellement compte. Savons-nous accepter ce qui, dans notre travail ou dans nos études aussi, est contraire à nos convictions, mais seulement dans la mesure où cela n'entache pas notre intégrité morale ou spirituelle. On n'est pas là pour devenir non plus des fanatiques et tout rejeter en bloc. Enfin, moi, je ne sais pas, depuis que je suis petit, quand je suis allé à l'école comme tout le monde, hein, mais dans les plus petites classes, on m'apprenait déjà que je descendais du singe. Bon, au départ, ça ne m'a pas trop gêné parce que je n'étais pas chrétien. Mais maintenant que j'y pense, eh bien, c'est une imbécilité. Nous, on le sait. Mais apparemment, les gens du monde s'en accommodent très bien. Mais quelque part, on peut très bien l'apprendre, mais ne pas le croire. Et cela fait toute la différence. On est obligé, quand on poursuit des études même supérieures, on est obligé d'acquérir des connaissances qui sont en désaccord direct avec nos convictions. Mais ce ne sont que des connaissances. Nous savons des choses, mais nous ne les acceptons pas pour nous-mêmes. Nous pourrons nous en servir pour notre travail, mais elles n'affecteront pas notre vie de spirituel. Quand on voulut donc astreindre Daniel à manger des mets du roi, il refusa. Pensez-vous que c'est par souci diététique ? Je pense que les viandes qui viennent de la table du roi sont un peu trop grasses pour moi, n'est-ce pas ? Et je vais m'astreindre à un régime légumineux pour garder la ligne. Pourtant, je suppose, hein, c'est un roi. Donc la nourriture qui sortait de sa table devait être certainement succulente. Et c'était peut-être tentant de pouvoir accéder. D'ailleurs, certainement, dans la cour de Nebuchadnezzar, tout le monde n'était pas accepté à la table du roi. Seuls quelques notables pouvaient manger avec lui. Et donc c'était certainement quelque chose de très intéressant et très important que de pouvoir manger les mets de sa table. Pourtant, Daniel refusa. Mais il ne refusa pourquoi ? Il ne voulait pas se souiller. Pourquoi le fait de manger des dîners venant de la table du roi pouvait-il le souiller ? Alors, je vais vous donner un secret. À la table et à la cour du roi Nebuchadnezzar, tout ce qui était servi à la table du roi était auparavant sacrifié aux idoles. Ici. Afin d'attirer les bonnes grâces des dieux sur le souverain. C'était leur coutume. Et là, il y a une frontière, justement, que Daniel n'a pas voulu dépasser. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 10, 19 à 20, un passage que Paul nous donne. Que dirais-je donc ? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ? Ou qu'une idole est quelque chose ? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voilà ce que Daniel, à 15 ou 16 ans, avait déjà compris. Il faisait la part des choses entre ce qu'il pouvait accepter et ce qui était inacceptable pour lui. Donc, ce n'est pas par fanatisme ou par souci de sa ligne que Daniel refusa de se souiller avec ses mets du roi. Il savait qu'en les acceptant, il laissait l'esprit chaldéen s'introduire dans sa conscience. Moi, je suis époustouflé quand je lis ce livre par la maturité de Daniel. Qui c'est qui a 15 ans ici ? Plus personne, je pense. Tout le monde a dépassé cet âge-là. Et je pense que même certains adultes ont une maturité moindre et certainement moins en vue que celle de Daniel. À 15 ans, je me demande comment il faisait pour être et pour avoir cette sagesse. Certainement, il était en communion avec son Dieu et il savait que son Dieu ne l'avait pas abandonné. Et il savait discerner ce qui était bon pour lui et ce qui faisait déplaisir à son Dieu. J'ai relevé un passage de saint Augustin qui nous dit: nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de construire leur nid sur notre tête. C'est quelque chose d'intéressant. C'est une image, mais c'est vrai que nous sommes environnés par le péché. Nous vivons dans le monde, comme Jésus nous disait dans sa prière sacerdotale, « Je te prie non pas de les ôter du monde, mais de préserver du malin. » Nous sommes dans le monde et nous sommes appelés à vivre dans le monde, quelles que soient nos convictions. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre comme le monde. Il en est de même, donc, de notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas empêcher le monde et ses souillures de nous envelopper, mais nous pouvons interdire au péché de pénétrer en nous. Dans 2 Corinthiens 6, 17-18, nous pouvons lire « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Daniel, donc, résolut de ne pas se souiller. Mais ce n'est pas une décision qui ne coûtait rien. Cette décision pouvait entraîner sa disgrâce à la cour, ou même sa mort, et même sûrement plutôt sa mort que sa disgrâce. Pourtant, il n'hésita pas. Dans cette cour immorale et cruelle, il rendit donc un témoignage qui inspira confiance. C'est pourquoi il trouva grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques était soumis à son roi, et le chef des eunuques, comme il nous est dit d'ailleurs, risquait sa tête également s'il ne donnait pas les mets du roi à ces jeunes gens. Donc il fallait vraiment qu'il ait été touché par le témoignage de Daniel et les trois autres amis pour accéder à leur demande. Il était lui-même en danger. Et pourtant, il accéda à leur demande. Est-ce que nous sommes prêts, comme Daniel, à refuser les souillures du monde, même au péril de notre vie ? Saurons-nous, comme beaucoup de chrétiens des temps anciens, dire non au péché, accepter de donner notre vie si Dieu nous le demande? Peut-être il ne nous le demandera jamais, et ça sera tant mieux, n'est-ce pas? Mais, comme nous voyons dans d'autres pays, certaines fois, Dieu demande aux chrétiens de céder leur vie et de rester fidèles. Daniel ne se contenta pas d'ailleurs de refuser la souillure, il ne se déroba pas à l'épreuve de sa foi. Dans le verset 12 et 13, nous le voyons, c'est même lui qui demanda à être éprouvé. Évidemment que le chef des eunuques avait peur. Il dit, mais si vous mangez que des légumes, vous allez devenir tout pâle. Ça va se voir à la cour, ça ne va pas plaire du tout. Et il avait certainement raison, parce que je crois que ce roi-là avait l'œil. Hein. Il ne voulait que des jeunes gens, de belles figures, sans défauts physiques, hein, nickel quoi. Des gens qui puissent le servir, mais qui soient beaux. Alors des gens pâles, ça n'intéressait pas beaucoup. Et donc, Daniel demanda à être mis à l'épreuve. Il avait confiance en son Dieu. Il dit, mais si Dieu veut que je résiste à ça, mais il va me donner les moyens de résister. Moi, enfin, dans ma vie, je vois que c'est certaines fois difficile hein, d'accepter l'épreuve de notre foi, de ma foi. Et je suis certaines fois enclin à fuir autant que possible la discipline de Dieu. Et à me dérober, certaines fois, à ces méthodes éducatives, je le confesse. Pourtant, je sais qu'elles sont nécessaires pour ma croissance spirituelle. Mais, certaines fois, ça fait mal. C'est pas agréable. Ça nous paraît dur. Et on veut essayer de vivre une vie chrétienne tranquille. Bon, moi, je suis pas plus masochiste que ça. Et je ne recherche pas les difficultés. Mais bon, quand elles se présentent, est-ce que nous ne sommes pas enclins à nous plaindre au lieu de découvrir ce que Dieu veut nous apprendre? Moi, j'ai remarqué ça dans ma vie. L'épreuve n'est jamais agréable, mais quand elle arrive, j'ai du mal à l'accepter. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. L'épreuve est nécessaire à notre vie. Et Dieu s'occupe de nous. Il est au contrôle. Et il veut nous faire du bien, même si pour l'instant, ça nous paraît difficile. Donc Daniel demanda à être éprouvé. Quelle différence! Non content d'accepter l'épreuve de sa foi, il la demande, tant sa foi en son Dieu est inébranlable. Et Dieu, évidemment, chaque fois il fait pareil, Dieu répond. Vous pensez que Dieu répond à chaque fois? Pas toujours. Des fois ça ne marche pas comme on voudrait. On se dit, ah, mais Dieu est fort, il est puissant, il me demande d'être éprouvé, je vais lui faire confiance. Tout va bien se passer et tout se passe mal. Et on a encore plus d'épreuves qui poursuivent et qui suivent. Et souvent, ça devient long et difficile. Et plus c'est long, plus c'est difficile. Et on se dit, mais il arrive un moment, on se dit quand même, Dieu, est-ce que tu ne trouves pas que ça pourrait s'arrêter à un moment donné là? Parce que ça commence à bien faire. Là j'ai résisté, hein, j'avais de bonnes dispositions, mais là, tu continues, là, ça va au-delà de ce que je peux supporter. Et pourtant, Dieu continue jusqu'au moment où l'épreuve s'arrête. Et elle s'arrête au bon moment, toujours. Quand on a bien appris notre leçon, quand on a bien appris à faire confiance à Dieu. Dieu répondit donc à la foi de Daniel, c'est tant mieux, parce que sinon il risquait sa tête. Et il avait meilleure figure que tous les autres jeunes qui mangeaient à la table du roi. Et lorsqu'ils se présentèrent, lui et ses trois amis, devant le roi, celui-ci trouva en eux un esprit 10 fois supérieur aux autres. Et il les établit comme responsables dans les provinces du royaume. Et Daniel commença une carrière publique qui dura environ 60 ans. Et il eut un impact puissant sur les gens de ce pays. Vous vous souvenez de Joseph, dont nous avons parlé tout à l'heure? Lui aussi resta fidèle à son Dieu, malgré l'esclavage, les accusations mensongères, la prison même. Il fut lui également éprouvé jusqu'à l'extrême. Il se retrouve en prison alors qu'il n'avait rien fait. Et même en prison, son Dieu lui fit du bien. Dieu le fit prospérer et il devint le personnage le plus important d'Égypte après Pharaon. Il fut une bénédiction pour sa famille pendant la famine. Dieu avait tout prévu. Et pourquoi fut-il une bénédiction? Parce qu'il a accepté cette situation. Il ne s'est pas découragé. Il avait confiance en son Dieu. Il a même pardonné à ses frères qu'il avait vendus. Et Dieu le bénit et bénit toute sa famille. Nous connaissons donc un peu mieux également notre héros de la foi, Daniel, qui sut, malgré les circonstances adverses, rester fidèle à son Dieu. Il triompha et resta fidèle malgré l'adversité. Alors, comme Daniel, vous vous trouvez peut-être devant un choix crucial pour votre vie. Alors, je vous dis de suite, ne soyez pas surpris, c'est normal. Parce que tôt ou tard, Dieu place chaque chrétien dans cette situation, au moins une fois dans sa vie, où il faut réellement prendre position, où on n'a plus le choix. Dieu vous demande de refuser résolument des mets souillés qui vous sont proposés par le monde. Alors, prenons exemple sur Daniel, qui eut confiance en son Dieu malgré sa condition d'exilé, qui resta fidèle malgré la pression du monde qui l'entourait. Et je voudrais terminer en lisant Hébreux 11. Nous allons lire Hébreux 11, 32 à 40, si vous le voulez bien, pour terminer. En conclusion, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, comme Daniel, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'ils étaient promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alors, comme je disais, certaines fois, Dieu nous protège. Certaines fois, Dieu veut que nous ayons jusqu'au bout. Et c'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Prions. Seigneur, nous te remercions pour l'exemple de Daniel, Seigneur. Merci pour ce personnage fantastique. Merci pour cet adolescent qui a su déterminer ce qui pouvait le souiller et ce qui n'était pas dangereux pour lui et pour sa foi, Seigneur. Merci pour son exemple qui parle encore, Seigneur, et qui nous pousse à rester fidèles, Seigneur, et à résister au monde qui nous entoure, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu t'occupes personnellement de chacun d'entre nous, que tu mènes notre vie, Seigneur, que tu veux nous apprendre des choses et que l'épreuve est salutaire pour chacun d'entre nous. Nous te prions, Seigneur, que tu nous diriges encore et que tu nous fasses du bien, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.